Le Seigneur soit béni. Il est bon de le louer, c'est ce pourquoi il nous a créés. Hein. Donc il y a des fois, on ne sait pas si on fait sa volonté, mais quand on loue le Seigneur ensemble, on fait sa volonté, que son nom soit béni. On continue sur l'étude des fondements. On en est déjà à la 13e étude. Juste rappeler... Le petit parcours que nous faisons dans le livre des Actes des Apôtres depuis quelques dimanches. Nous avons insisté sur le rôle indispensable du Saint-Esprit. Nous avons aussi rappelé le fondement de la croix. Parfois, nous avons tendance à oublier que tout part de là et que rien n'est possible sans la croix. Nous avons parlé aussi de la repentance. Étape nécessaire pour commencer la vie avec Dieu. Hein, sans repentance, ce n'est pas possible. Et on a vu que la repentance, ce n'est pas seulement la première fois qu'on se rend compte qu'on est pécheur, mais c'est tout au long de notre parcours que nous avons besoin de revenir à la croix pour nous repentir. Et puis la semaine dernière, on a abordé pour terminer cette étude le fameux verset d'Actes 2, 42 avec les cinq piliers de la foi chrétienne. Cinq piliers qui sont, nous le lisons dans Actes 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc ces cinq piliers sont les suivants, vous les avez repérés certainement en lisant le verset. La persévérance, tout d'abord, ensuite l'enseignement, ensuite la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. La semaine dernière, nous avons parlé de la persévérance et nous avons rappelé qu'il était important pour persévérer de garder toujours les yeux sur Jésus. Dès qu'on regarde à nos soucis, qu'on regarde à nous-mêmes, qu'on regarde aux circonstances, on a tendance à se décourager. Mais si on regarde à Jésus, on persévère jusqu'au bout. Et puis on a parlé de l'enseignement des apôtres. On avait fait un petit retour en arrière vers Néhémie 8 quand... Le peuple réclame à Néhémie et tous les scribes, les lévites de leur lire la parole. Hein, ils sont restés plusieurs heures à écouter la parole. Et on a vu qu'il était important, à partir d'Éphésiens 4:11, avec les ministères que Dieu a donnés à l'Église, il était important d'écouter l'enseignement des apôtres. Je bénis Dieu de ce qu'il y avait. Il y a quand même 4 saintes personnes qui ont réagi mardi soir. C'est beaucoup, hein? Sur une centaine, 4. Enfin, il y en a qui n'avaient pas besoin de réagir puisqu'ils venaient déjà le mardi soir. Il y avait 4 personnes et ça m'a touché. Et je crois que le Seigneur va nous faire avancer. Si vous pouvez venir, venez écouter l'enseignement de la parole, c'est important. Et puis, nous avons vu qu'il était important aussi, hein, vous vous rappelez l'image de l'enfant qui mange, on lui donne à manger avec la cuillère et puis petit à petit, il mange par lui-même. Et on a vu qu'il était important aussi, non seulement de venir écouter, mais aussi de sonder soi-même les Écritures, hein, de faire ses propres recherches, ses propres études personnelles. Mais les deux vont ensemble, ce n'est pas parce qu'on fait ses études personnelles qu'on n'a plus besoin d'enseignement. Et puis, aujourd'hui, nous allons voir, c'est un défi pour moi de voir en une seule prédication la communion fraternelle et la fraction du pain. On va parler de la communion fraternelle, je pense que c'est un fondement, un pilier de la vie chrétienne. Je ne dis pas de l'Église, je dis de la vie chrétienne. La communion fraternelle. La communion fraternelle qui est, encore une fois, on le rappelle, acte 2, 42, une chose dans laquelle on a besoin de persévérer. Ça veut dire que ce n'est pas naturel. On a plus envie d'être tout seul. On a plus envie de se débrouiller par soi-même. On a plus envie d'éviter les problèmes. Et beaucoup de gens se privent aujourd'hui de la communion fraternelle par rapport à des mauvaises expériences. On peut avoir vécu des mauvaises expériences, malheureusement, dans la communion fraternelle. Des blessures, ou un pasteur qui nous a déçus, ou je ne sais quelle autre chose, qui font qu'on dit « Oh moi, l'Église, c'est terminé ». On ne peut pas dire à Dieu qu'un de ses commandements est terminé. On ne peut pas dire ça, quelles que soient les circonstances qu'on a traversées. Donc si on a traversé des circonstances difficiles, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à Dieu de nous guérir et de nous aider à retrouver le chemin de la communion fraternelle. Il faut persévérer dans ces choses. car ce n'est pas naturel. Et rapidement, le diable va nous donner des raisons de ne pas venir. On était à un rassemblement de jeunes hier, et le pasteur encourageait les jeunes à venir à l'église, parce que les jeunes ont de plus en plus de mal à être réguliers dans les réunions d'église. Donc je me suis aperçu que ce n'était pas seulement Colomiers. Hein, et cette difficulté, il leur disait, mais le diable vous donne plein d'excuses. Vous-même, vous trouvez plein d'excuses. Et il les invitait à faire taire toutes ces excuses. Et notre place, quand l'Église se réunit, elle est d'être là, au milieu des frères et sœurs. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de cette épître nous dit « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Une invitation à exercer l'amour fraternel, mais pas seulement pendant les réunions, en exerçant l'hospitalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma maison doit être ouverte pour accueillir les frères et sœurs. Amen. La communion fraternelle, c'est le premier point que je relève, c'est l'hospitalité, c'est se recevoir les uns les autres. Est-ce que tu le fais ? Parfois, j'entends des gens dire oh, « je suis tout seul, personne ne s'occupe de moi dans l'église ». Ben, invite des frères et sœurs. Tu vas être moins seul d'un seul coup. Mais oui, on attend toujours que ce soit les autres qui fassent un pas. Mais toi, invite. Toi, fais-toi un réseau d'amis, un réseau de frères et sœurs avec qui tu te retrouves pour prier, pour partager, pour peut-être aussi sortir, aller se détendre. Oui, c'est important. Oui. Acte 2, 44 à 47. Donc juste après acte 2, 42, où il est parlé comment vivaient les premiers chrétiens, regardez tout ce qu'il est dit sur eux. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Vous vous rendez compte ? On est loin, hein ? On est très loin. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Il y en a des mots là. Rien que le mot assidu, ça... On a du mal, hein, c'est pas naturel, hein, l'assiduité. Assidus. Ils étaient assidus au temple. Alors aujourd'hui, on se réunit pas tous les jours, mais justement, on se réunit peu de fois, et même en se réunissant peu de fois, on arrive à ne pas être assidu. C'est fou. Je ne sais pas si vous voyez l'écart entre ce qu'on vit et ce que vivaient les premiers chrétiens. Moi, ça m'interpelle toujours. C'est pour ça que le peu de fois où on peut se réunir, ben, je veux être présent. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. On retrouve les deux choses, hein, le temple et les maisons. L'église... J'avais prêché une fois là-dessus, l'église dispersée, l'église réunie et l'église dispersée. L'église ne s'arrête pas quand le culte s'arrête. Et après, on va chacun dans notre lieu de travail, dans nos maisons, et on est autre chose que l'église. Non, on continue d'être l'église. Amen. Toute la semaine, on est l'église. Alléluia. Et trouver grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. La communion fraternelle, c'est aimer se retrouver ensemble, à l'église ou dans les maisons. C'est ça la communion fraternelle. Est-ce que tu as du plaisir à venir ? Est-ce qu'il te tarde de voir tes frères et sœurs que tu n'as pas vus depuis plusieurs jours ? C'est long ! Oui, quand on aime quelqu'un, non ? Non ? Est-ce qu'il y a des grands-parents ici ? C'est dur de ne pas voir ses petits-enfants pendant un petit moment. Hein. Quand ils arrivent, quand ils repartent, ouf. Et les fiancés qui ont leur fiancé qui est à l'autre bout de la France, je ne sais pas s'il y en a ici, pas à ma connaissance, mais ça arrive. Il ne vous tarde pas de vous retrouver. Pourquoi il n'en serait pas ainsi de nos relations ? Tarder de nous retrouver les uns les autres. Moi, il me tarde déjà mardi soir pour se retrouver. À chaque fois qu'il y a des occasions, on a fait la rando l'autre jour. C'était un plaisir de passer une journée ensemble avec les frères et sœurs. C'est des moments exceptionnels. Quand, quand on se réunit, la communion fraternelle, le mot agapé en grec, hein, il est très utilisé par Jésus et les apôtres aussi. Ça signifie littéralement l'amour fraternel. Agapé. Vous êtes au courant qu'on fait des agapes tous les premiers dimanches du mois? Est-ce que vous y venez? Est-ce que vous y venez? Quelqu'un qui n'est jamais venu à une agape. Oh. Mais à côté de quoi on passe? À côté de ce que le Seigneur veut pour l'Église. Qu'on nourrisse cette communion fraternelle. Pas seulement juste se dire bonjour vite fait le dimanche. Il y a des gens, je suis sûr, ils se regardent là dans l'église, vous ne savez même pas le prénom d'une autre personne. C'est vrai, hein ? Il y a des gens qui fréquentent la même église que vous, vous ne connaissez pas son nom et son prénom. Est-ce que c'est normal ? Répondez-moi franchement, c'est normal ou pas ? Pas normal. C'est comme si je vous disais, vous ne vous rappelez pas de prénom de vos enfants. C'est votre famille, ou votre frère, ou votre sœur. Et pourtant, on accepte tout ça, on vit avec ça tranquillement, tout va bien. Le mot, dans Actes 4, 32, la première partie du verset, il est dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Waouh ! Ça me rappelle une prédication pour les plus anciens qui sont depuis plus longtemps à Colomiers. J'avais parlé justement sur l'amour fraternel et le mot koinonia. Vous connaissez le mot koinonia ? Le mot koinonia, ça signifie communion, faire un. Et c'est ce mot qui est utilisé dans Acte 2, 42. Et vous savez que le même mot est utilisé pour notre communion avec Dieu. Dans un passage de la première épître aux Corinthiens, il est dit « Dieu nous appelle à la communion de son Fils ». Koinonia, être un avec, faire un. Le même mot, vous avez envie d'être un avec Dieu, d'avoir une intimité de relation, oui ou non? Amen, il y en a trois qui ont envie. Alléluia, quelle église, Colomiers, c'est le feu. On a envie d'être un avec Dieu, oui ou non? De le connaître, de vivre de l'intimité avec lui. Eh bien, la même chose nous est demandée pour nos frères et sœurs. Le même mot. Waouh, on a du chemin à parcourir. Hein. Oui ? Dans 1 Corinthiens 12, 26, vous connaissez ce passage, je vous invite même à lire tout ce que dit Paul sur le corps avec l'œil qui ne peut pas se passer de la main, etc. Vous connaissez ce passage. Et dans ce passage, il est dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres sont honorés. Le deuxième est plus difficile. Hein. On est prêt à se mobiliser quand quelqu'un souffre. Quand quelqu'un est béni, il y a les jaloux qui se réveillent. Et pourquoi lui et moi, ça fait des années que je prie. Ou l'autre, il a une promotion, il vient d'être... Et moi, ça fait des années que j'attends ma promotion, j'en ai pas. Tu te réjouis quand ton frère a des bénédictions? Pas facile. Enfin, ça dépend des gens. Dans Romains 12, 5, il est dit « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Yeah, impressionnant, hein ? En fait, la communion fraternelle, c'est la démonstration de l'unité que Dieu a créée entre ses enfants, qu'il a tous rachetés par son sang. Amen. Un lien d'unité fort qu'il doit y avoir entre nous. Est-ce qu'on a des progrès à faire ? Oui, oui, oui. Dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, il dit ceci, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Alors là, on dit, mais pourquoi il dit un commandement nouveau ? Mais il a déjà dit ça, Dieu, qu'on doit s'aimer les uns les autres. Ouais, mais il ajoute, « Comme je vous ai aimé, et c'est Jésus qui parle. » Donc c'est plus vous devez vous aimer les uns comme les autres, avec votre amour à vous, mais avec le même amour que Jésus a pour nous. Et là, ça devient nouveau, effectivement. Un petit peu au-dessus de ce qu'on est capable de faire. Mais si Dieu nous le demande, il nous donne les moyens de le faire. Dieu ne nous demande pas des choses qu'on ne peut pas faire. Oui, on ne peut pas les faire avec notre propre personne, nos propres capacités, mais le Saint-Esprit qui est en nous nous donne de pouvoir aimer notre frère, notre sœur, comme Christ nous a aimés. Amen. En tous les cas, regardez ce qu'il est dit. Vous aussi aimez-vous les uns les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Eh. Savez-vous que les relations qu'on a entre nous parlent plus aux personnes que parfois les prédications qui sont données? C'est une chose que je remarque, que les gens qui viennent dans notre église ils disent « Ah, mais il y a quelque chose ici que je n'ai pas connu ailleurs. » Ils sentent une relation, une chaleur, des choses entre nous qu'ils n'ont pas vues ailleurs. Ou ils vont dans des églises où tout le monde repart très rapidement, il n'y a pas de... Il faut qu'on cultive ça, il faut qu'on aille plus loin encore et que vraiment le Seigneur nous remplisse de son amour. Vraiment qu'il nous remplisse de son amour les uns pour les autres. On est dans une société, en fait, quand il est dit persévérer dans ces choses, là, on est sûr qu'il faut qu'on persévère. Hein. Parce que la société d'aujourd'hui ne nous invite pas à nous occuper des autres. Elle nous invite à nous occuper de nous, de moi. Hein ? L'égologie. Vous connaissez l'égologie ? Il n'y a pas le mouvement égologie qui se présente aux Européennes, mais ils devraient parce qu'ils auraient du succès. Hein. La communion fraternelle, c'est un puissant témoignage pour l'évangélisation. Amen. On peut faire venir le plus grand évangéliste de la terre. Si les gens viennent ici et qu'ils voient que c'est froid entre nous, qu'il n'y a pas de... Je ne sais pas. Si le plus grand évangéliste pourra faire quelque chose. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, au verset 24, voyez ce à quoi nous sommes encouragés. On va s'arrêter un peu sur ce texte parce qu'il est intéressant. Veillons les uns sur les autres. Déjà, ça commence fort. Veillons les uns sur les autres. Pourquoi ? Pour nous exciter, pour nous encourager à la charité, à l'amour et aux bonnes œuvres. Amen. Il est ajouté, n'abandonnons pas notre assemblée. Qui n'a pas eu un jour envie d'abandonner son assemblée ? Ben, peut-être qu'il y en a. Hein. Mais des fois, on a envie. Hein. On nous a mal parlé, ou ça avance pas. Nous, on voudrait, on a une vision, on a des choses qu'on voudrait voir. Mais qu'est-ce qu'il fait, le pasteur, qu'est-ce qu'ils font? Et pourquoi ceci et pourquoi cela? Puis on a envie. Puis en plus, quand on est à Toulouse, bah, c'est vite fait. Hein, il y a tellement d'églises autour, on va à une autre. Ou on va refaire la même chose. Hein, au bout d'un moment, on aura envie de partir aussi. N'abandonnons pas notre assemblée. Mais mes frères et sœurs, ça a un lien avec ce qu'on a dit juste avant. Est-ce que vous abandonnez votre famille ? Est-ce qu'on abandonne sa famille ? Non, on n'abandonne pas sa famille. Et quels que soient les problèmes, les divergences de vues, quel que soit ce qui peut se passer, on n'abandonne pas son assemblée. La seule fois où on peut abandonner son assemblée, c'est s'il commence à être dit des choses qui ne sont pas bibliques. Là, je vous donne le droit de partir. Si on commence à dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole, alors oui. Là, vous devez partir. Le Seigneur vous le demande. Peut-être d'abord aller voir les responsables et dire « Oh là, attention là, ça c'est pas. » Et puis, s'il n'y a pas de changement. Mais sinon, on n'a pas à abandonner son assemblée. Quand le Seigneur nous a placé un endroit, eh bien, on y reste fidèlement. Ça aussi, c'est une chose qui s'opère. Hein. L'engagement sur le long terme. Mais toujours, là, aujourd'hui, c'est à la mode. J'entends souvent, « Oh, pasteur, pour moi, c'est une nouvelle saison qui s'ouvre. » Et puis, voilà, le Seigneur leur a dit qu'ils devaient aller dans une autre église. Je dis rien parce que les voies du Seigneur ne sont pas les miennes. Mais laissez-moi être sceptique la plupart du temps sur ce genre de choses. Derrière, il y a autre chose. Ce n'est pas une nouvelle saison que Dieu veut, c'est qu'il y a un problème. Et ne réglons pas nos problèmes en disant que Dieu a prévu telle, telle chose, mais attachons-nous à notre assemblée. Attachons-nous à l'œuvre de Dieu, à l'Église. Et là aussi, ne nous attachons pas à une personne. Aussi, quand quelqu'un, un pasteur change d'église, on voit les gens qui changent, suivent le pasteur, des choses comme ça. C'est normal, ça ? Non, c'est pas normal. J'aimerais vous l'entendre dire, c'est normal ? Non. Ça va vous arriver bientôt. Alors vous allez devoir rester dans l'assemblée. Amen. Être fidèle à l'église où le Seigneur vous a placé. Que le Seigneur soit béni. La communion fraternelle, on le voit dans ce passage. Hein, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Est-ce que le jour s'approche, mes frères et sœurs ? On le dit tous, hein ? Et le Seigneur nous met en garde par rapport au dernier temps. Et une des choses qu'il nous dit, restons unis dans les derniers temps. Exhortons-nous réciproquement. Vous savez, l'intérêt de l'Église, il est majeur. C'est que l'Église nous fait progresser d'une manière bien plus rapide que si on avance tout seul. Oui. Vous avez devant vous un exemple de quelqu'un qui a été façonné par les frères et sœurs. Des gens à qui j'ai été confronté, soit en bien, soit en mal, mais qui m'ont façonné. Et Dieu a permis ces rencontres pour que j'apprenne. Et Dieu m'a permis, au travers de ces rencontres, à poser un regard sur moi-même et à aussi voir ce qui n'allait pas chez moi-même. Parce que quand vous avez des problèmes relationnels, ce n'est pas toujours la faute de l'autre. Peut-être c'est vous qui avez un mauvais caractère, qui êtes un peu pénible sur les bords, ou toujours pessimiste. Et puis vous dites, personne ne m'aime. Oui, mais à chaque fois que vous voyez les gens, vous êtes là en train de dire, c'est nul, On peut faire le vide autour de soi. Hein. Moi, je bénis le Seigneur pour les frères et sœurs. Et quand je dis ça, je pense à tout plein de gens avec qui je me suis... Vous savez, on se frotte, mais pas dans le mauvais sens. Et on arrondit pour vivre ensemble. On apprend à travailler sur soi. On l'a entendu hier aussi, le pasteur l'a expliqué aux jeunes. Et il disait, si tu rencontres quelqu'un qui est relou, enfin, il fallait parler pour les jeunes, hein, ben c'est le Seigneur qui le met pour toi, pour t'apprendre. Et oui, nous, on voudrait toujours que des gens sympas autour de nous. Mais en fait, la diversité des caractères, des origines, des cultures, tout ça fait qu'on se confronte les uns aux autres. Mais dans le bon sens, on se confronte. On n'a pas les mêmes points de vue, on n'a pas les mêmes manières de voir les choses, on n'a pas les mêmes cultures, etc., les mêmes origines, on n'a pas le même vécu. Et donc ça fait des tensions tout ça. Mais ces tensions peuvent être transformées en bien si nous savons prendre sur nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on grandit. Et c'est ça, c'est une des richesses de la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est une stimulation qui nous pousse vers le haut. Si on le vit de la bonne manière, si on le vit d'une manière négative, alors on va se poser en victime. Et puis alors après, c'est fini. Quand vous avez décidé que vous êtes la victime, c'est fini. Plus personne ne peut vous raisonner. C'est « on ne me comprend pas, ah, voilà. » Et c'est fini. On le vit en tant que pasteur, on essaye de... Avec Valérie, on reçoit des personnes, et il y a des personnes, on sait qu'on ne pourra pas les aider, parce qu'elles sont enfermées dans une position de victime. Tout ce qu'elles vivent, c'est injuste. Et donc, on peut pas les aider à prendre du recul, c'est terrible hein, quand on en est là, et que le Seigneur nous aide. Ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à n'importe qui. À un moment donné, de s'enfermer dans la position de victime où on n'en sort plus. Et il faudrait, pour qu'on en sorte, que tout le monde vienne s'aplatir devant nous et nous présenter ses excuses. La communion fraternelle, c'est une richesse. Ne le voyons pas comme une difficulté. C'est une richesse. Amen. Et je dis toujours qu'on a une chance extraordinaire de vivre l'Église parce que c'est le seul endroit où d'une manière durable, là il va y avoir les Jeux Olympiques, et c'est vrai que les rassemblements sportifs, c'est assez extraordinaire dans le fait où ça rassemble des gens de toute origine, toute nation, toute condition. Mais ça dure combien de temps? 15 jours. Et après tout le monde repart et c'est fini. Tout le monde va au stade, ça dure 2 heures, 3 heures, s'il y a les prolongations comme hier. Et puis après tout le monde repart et c'est fini. Mais nous, l'Église, c'est pas juste 2 heures. C'est tout le temps. Tout le temps que le Seigneur rassemble des blancs, des noirs, des vieux, des jeunes, des enfants, des vieillards, des pauvres, des riches, des gens qui ont eu un vécu pas de problème, tout a baigné, une enfance heureuse, des gens qui galèrent depuis qu'ils sont tout petits. Seigneur, il met tout ça ensemble et ça marche. Ça fonctionne. C'est incroyable, non? Mais ça, c'est le miracle de Jésus-Christ. Et c'est un témoignage extraordinaire pour le monde. Et on doit le vivre pleinement, à fond. C'est une richesse. La communion fraternelle, c'est une richesse. Amen. Et elle a un lien avec le quatrième fondement. J'aurais pu dire beaucoup d'autres choses sur la communion fraternelle. Mais vous avez compris que c'est essentiel. Ne vous en privez jamais. Moi, j'ai rencontré des gens qui me disent, je leur dis, vous allez à quelle église? Oh, j'ai pas d'église. Et alors, la communion fraternelle? Ah, mais je fais partie de l'Église universelle. J'ai des frères et sœurs partout dans le monde. Oui, super. Tu les vois quand? Vous mangez quand ensemble? Vous partagez quand? Vous priez ensemble? Il y a un problème. Oui, moi aussi, je fais partie de l'Église universelle. Mais ce qu'on voit dans la Bible, chaque fois qu'il est parlé de l'Église, c'est parler de l'Église locale, qui fait partie, bien sûr, d'un ensemble qui est l'Église universelle. Et c'est une richesse, c'est une richesse. Vous allez à l'autre bout du monde, vous rentrez dans une église et vous êtes accueillis comme un frère, une sœur. Amen. Moi, je ne suis pas allé à l'autre bout du monde, mais je suis allé en Auvergne. Premier poste. Éducation nationale, je passe mon concours de CPE, j'ai réussi. Alors quand je l'ai réussi, autour de moi, tout le monde dit « Ouais !» Moi, j'ai fait « Ouh, je vais devoir partir. » Et ouais, j'étais à Albi, avec une super église, ma famille, tous mes amis et tout ça. Et là, poum, ça tombe. Et j'ai pas mangé pendant une semaine, hein, tellement j'avais la boule. Alors tout le monde me disait « Mais t'as eu le concours !» C'était un concours hyper dur à avoir et tout. Et ouais, j'arrivais pas à le maîtriser. Et puis je suis parti. Mais béni soit le Seigneur, parce que là où je suis arrivé, à Thiers, il y avait une église. En plus, je connaissais le pasteur. Parce que sa femme était une amie d'enfance de Valérie. Le Seigneur avait tout prévu. Le soir, ça a été dur quand on est arrivé. Nos amis d'Albi sont repartis avec le camion du déménagement. Et on s'est retrouvés là comme des imbéciles. Mais le pasteur nous avait dit, vous venez manger à la maison. Et là, tout de suite, et puis on a été cueillis dans l'église. Ça a été formidable. C'est ça. On est riche, mes frères et sœurs. On est riche. Peut-être que ta propre famille n'a pas été ce que tu as attendu. Ça a été compliqué dans ta famille. Et c'est toujours compliqué. Mais tu as, au travers des frères et sœurs, tu ne dois pas abandonner ta famille pour l'Église. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Mais si c'est compliqué dans ta famille, tu peux te ressourcer dans la famille du Seigneur. Amen. Et Dieu est un père pour toi, qui peut remplacer peut-être le père défaillant. Des frères et sœurs sont là qui peuvent remplacer des frères et sœurs défaillants. Et continue de prier pour ta famille afin qu'ils rencontrent le Seigneur et qu'un jour les relations soient restaurées aussi dans ta famille. Amen. La fraction du pain, ça va avec la communion fraternelle. On va le voir ensemble. Donc on reprend acte 2, 42. Il persévérait, toujours pareil, il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Pourquoi il faut persévérer dans la fraction du pain? Parce que là, le problème de l'homme, c'est qu'il oublie. Qui c'est qui n'oublie pas ici? Levez la main. Ça fait partie de la nature humaine. On est oublieux. Là, en ce moment, je regardais un reportage où ils sont en train de mettre par écrit les témoignages des derniers survivants de la guerre. Parce que petit à petit, les gens qui ont vécu la guerre, la dernière guerre mondiale, 1939-45, ils sont en train de disparaître. Et donc, on veut garder la mémoire de ce qu'ils ont vécu. Parce qu'au bout d'un moment, eh ben, on ne saura plus. Parce que ben, le temps fait que, la transmission fait qu'au bout d'un moment, on ne sait plus. Mais aussi, nous-mêmes, des fois, on ne se rappelle plus ce qu'on a. Si je vous demande qu'est-ce que vous avez mangé jeudi à midi, par exemple. Il va falloir que vous fassiez un gros effort pour vous rappeler, j'ai mangé quoi jeudi à midi. Et peut-être que vous ne retrouverez jamais ce que vous avez mangé jeudi à midi. C'est vrai. Mais ça, c'est... Pourquoi la Sainte Cène qu'on va faire tout à l'heure? Parce que Jésus l'a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est un temps où on doit faire l'effort de dire, je n'oublierai jamais la croix. Amen. C'est plus qu'important, cette affaire-là. Et certaines églises disent, oui, il n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut le faire tous les dimanches. Ok, ils ont le droit. C'est vrai, ce n'est pas écrit. Mais moi, je veux le faire tous les dimanches. Déjà parce qu'il y a un problème d'assiduité, on l'a dit. Et que si on le fait qu'une fois par mois, et que les personnes qui ne sont pas très assidues ne sont pas là ce jour-là, ils peuvent rester peut-être pendant 3 mois, 4 mois, sans faire ce devoir de mémoire. Donc en le faisant tous les dimanches, c'est mieux quand même. Et c'est un moment, moi ça, c'est pas un poids de faire la Sainte-Cène, hein. Donc ça ne me gêne pas de le faire tous les dimanches. Un devoir de mémoire. Regardez ce qu'il est dit dans Luc, chapitre 22, on aurait pu prendre les textes dans Matthieu 26 ou dans Marc 14, mais dans tous les trois premiers évangiles, les évangiles synoptiques, on a ces phrases de Jésus. Après, vous pouvez lire aussi dans Jean 13, pour l'évangile de Jean. « Ayant pris une coupe et rendu grâce, Jésus dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. » Ce qu'on note, c'est d'abord que Jésus lui-même institue ce repas. Ce n'est pas une invention de l'Église, la Sainte Cène. C'est Jésus qui a institué ce repas. Donc on ne fait pas une pratique, un rituel d'église. On fait ce que Jésus nous a demandé. C'est important de le préciser. Et puis on lit un autre texte dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23-28. Cette fois, ce n'est plus Jésus qui s'exprime sur la Sainte Cène, mais c'est l'apôtre Paul. Et il rappelle les choses. « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. » Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Amen. » Trois choses rapidement sur la Sainte Cène. Pareil, on aurait pu dire beaucoup plus d'autres choses, mais le premier point, j'en ai parlé, je le rappelle, premièrement, c'est un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire qu'on exerce le plus souvent possible. Ok, c'est important de se rappeler ce que Jésus, on va le faire tout à l'heure, Ne prenez jamais, n'attendez pas, ça passe. Vous êtes en train de penser à votre rôti qui est en train de cuire, que vous allez manger le midi. Vous êtes en train de penser à votre emploi du temps de lundi pour votre travail et j'ai ça à faire, etc. C'est pas ça la Sainte-Seine. Ou je suis en train de regarder. Ah ouais, l'autre, est-ce qu'il apprend, lui, là ? Des fois, les gens viennent me dire, hey, le frère là-bas, il a pris la Sainte-Seine alors que... J'ai dit, et alors toi, t'as fait quoi pendant que tu prenais la Sainte-Seine ? C'est ça qu'on doit faire quand on prend la Sainte-Seine, regarder autour ? Non. On a vraiment quelque chose d'important à faire. Hein. C'est se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Et être... Il y a deux sentiments. Hein. Quand je me souviens de la croix, j'ai deux sentiments. J'ai un sentiment de honte, de confusion en me disant, mais Seigneur, c'est moi qui t'ai fait vivre ça. Pardon, Seigneur. C'est important, hein, ce qu'on dit là. C'est moi qui t'ai fait vivre ça. Et puis le deuxième sentiment, c'est la gratitude. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu as accepté de faire ça. Et qu'aujourd'hui, je suis libre. Je suis libre. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis pardonné. Je suis racheté gratuitement. Alléluia. C'est un moment exceptionnel que celui de la Sainte-Seine. Qu'on ne doit pas passer à côté. C'est un temps d'annonce aussi. Paul dit, vous annoncez. Qu'est-ce qu'on annonce ? On en annonce des choses quand on fait la Sainte-Seine. D'abord, on annonce à ceux qui ne savent pas qu'il y a eu la croix. Il y a peut-être des gens qui viennent au milieu de nous aujourd'hui, ils n'ont pas conscience de ça, donc on leur rappelle, mais il y a eu la croix. Christ est venu sur terre, il est mort pour nous pardonner nos péchés, et il est ressuscité pour nous devancer dans la nouvelle naissance qu'il nous propose. On se rappelle aussi qu'au travers du sang de Christ, nous sommes pardonnés et nous pouvons aussi être guéris. Attention, c'est pas ça qui vous guérit, là, ce que vous allez prendre. C'est ce qui s'est passé à la croix. Mais comme ça, ça nous le rappelle, ça nous aide. On annonce aussi le retour du Seigneur. Faites ceci jusqu'à ce que je revienne. On annonce aussi le retour du Seigneur parce que la Sainte-Seine, c'est les prémices de ce que nous allons vivre lors du repas des noces de l'agneau, où nous serons invités à tous manger ensemble avec le Seigneur. Ça va être extraordinaire. Et puis la dernière chose, c'est un temps de remise en question. Paul nous dit que chacun s'éprouve lui-même. Okay ? C'est pour ça qu'on n'a pas le temps de regarder à droite, à gauche, qui prend la Sainte-Seine. J'ai surtout à réfléchir si moi je la prends et que je la prends comme il faut. Attention, la remise en question, c'est quelque chose d'essentiel. Et des gens ils me disent, un chrétien, ça ne doit pas douter. Moi, je dis faux. Ah, ça vous choque ? Je ne dois pas douter de Jésus. Oui, mais je dois douter de moi, de mes idées, de mes plans, de mes tout ça. Ouh ! Là, j'ai le droit de douter. On l'a vu dans l'étude 4, quand on étudiait Néhémie, au chapitre 5, je ne sais pas si vous vous rappelez, où Néhémie s'est aperçu de plein de choses qui n'allaient pas. Et il a pris les magistrats, tous les hautes personnalités, il leur a dit « Oh, regardez tout ce que vous faites là !» Alors que la loi dit de ne pas faire ces choses. Et on a vu, on était émerveillés de voir que ces gens, pourtant qui étaient haut placés, il n'y a pas eu besoin de leur faire une argumentation de 3 heures. Ils ont tous dit « Oui, on reconnaît qu'on a fait ça et que c'est pas bien. On va tout mettre en ordre. Wow. » Waouh ! La Sainte-Seine, elle nous invite à cela. Regardez tout ce qui ne va pas et tout mettre en ordre. Attention, c'est très important. Parce qu'il y a des gens, je les vois, où ils me disent « Ah, pasteur, ça fait un mois que je ne prends pas la Sainte-Seine, mais vous savez, je ne la prends pas parce que je sais que j'ai besoin un mois. Il te faut un mois pour régler une affaire que le Seigneur te demande de régler. » Non, mes frères et sœurs, la Sainte-Cène, c'est fait pour que Dieu nous fasse grâce là maintenant. Et moi, je te dis, ne te prive pas de la Sainte-Cène, mais règle ton problème. C'est un manque de courage que de dire « je ne l'apprends pas ». Ça veut dire « je vais régler mon affaire plus tard ». Non, non, c'est maintenant que tu dois la régler. Si le Seigneur t'interpelle ce matin alors que tu prends le pain et le vin, c'est tout de suite que tu dois régler la chose. Amen ? On est d'accord avec ça ? C'est contre-productif de se priver de la Sainte-Cène pendant plusieurs dimanches. Je dirais une fois un dimanche, peut-être parce que tu ne peux pas régler là maintenant sur place, à la limite. Mais ne te laisse pas piéger. Parce que même tu vas croire que tu es spirituel en faisant ça. Et le diable, il te trompe. Tu dois régler cette affaire. Amen. J'ai vécu dans des églises, c'était pas ici, hein, où des membres de la même famille étaient dans l'église et ne se parlaient plus. Et ils prenaient la Sainte-Cène. Extraordinaire, hein. Être dans la même église et ne plus se parler alors qu'on est de la même famille. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi, ils mangent du pain et boivent la coupe. C'est ça qui est écrit. C'est pas que chacun s'éprouve soi-même et qu'ils ne prennent pas le pain si ça ne va pas. Et qu'ainsi, ils mangent du pain et boivent la coupe. Et vous connaissez la suite. Mais c'est tellement important de se juger soi-même. Parce que si c'est Dieu qui nous juge, ça va être autre chose. Et il est parlé de plusieurs qui sont infirmes, malades ou qui sont morts. C'est une affaire sérieuse. Alors je ne dis pas que tous ceux qui sont morts et qui sont malades le sont parce qu'ils ont pris la Sainte-Cène d'une mauvaise manière. Ce n'est pas automatique tout ça. Mais il y a des choses qui nous échappent parfois. S'éprouver soi-même. C'est aussi une grâce que Dieu nous accorde. Fais le point, mon frère, ma sœur. Fais le point. Il faut faire le point régulièrement. Ne pas s'endormir. Ne pas croire que tout va bien. Le point pour deux choses. Et je conclue ce message. Point par rapport à ma relation avec Dieu. Où j'en suis avec toi, Seigneur ? Est-ce que ça va ? Et puis deuxième point, par rapport au corps de Christ. Je ne peux pas prendre la Sainte-Cène si je suis en conflit avec un frère ou une sœur. Ce n'est pas possible. Je dois régler ça d'abord. Mais pas dans 15 ans. Là, maintenant. Ou à la fin du culte. Ok ? Conclusion. Le lien entre communion fraternelle et la Sainte-Cène est indissociable. Pourquoi ? Parce que ce qui fait que nous sommes un, c'est que devant Dieu, nous sommes tous pécheurs. Tu es riche ? Peu importe. Tu es pauvre ? Peu importe. Tu es noir ? Peu importe. Tu es blanc ? Peu importe. Tu es vieux ? Peu importe. Tu es jeune ? Peu importe. Tu es pécheur. Tu es mauvais. Et si Jésus ne t'avait pas racheté par son sang, tu ne pourrais même pas être là ce matin, devant lui. Donc on est tous au même niveau. Et c'est ça qui fait l'unité en fait. Parce que ce qui a fait de nous des enfants de Dieu, c'est le sang de Jésus qui a été versé. Et ce sang, c'est ce lien qui nous unit. On est tous rachetés de la même manière. Il n'y a pas eu besoin plus de sang pour Luc que pour Élodie. Non. On est tous rachetés de la même manière, au même prix. Le même prix a été payé pour chacun d'entre nous. Donc on a tous la même valeur. Et on a une grande valeur, hein, puisqu'on a été, le prix qui a été payé pour nous racheter, c'est Jésus-Christ. Essayez de donner la valeur. Encore une fois, c'est à la croix que nous venons. La croix, ce fondement, le sang de Christ qui a coulé, qui nous unit, son corps qui a été brisé. Amen. On prie ensemble que le Seigneur puisse nous aider. Alors qu'on va prendre ce repas, mais je vous invite vraiment à faire le point où tu en es dans ta recherche de la communion fraternelle. Est-ce que tu vis ta vie solo ? Ou est-ce que tu cherches vraiment à vivre la communion fraternelle? Est-ce que ce matin, en écoutant cette prédication, tu te dis, Seigneur, oui, j'ai vraiment besoin de faire des efforts, des progrès. Oui, quand il est dit persévérer, c'est bien parce que ce n'est pas dans notre nature. Et Seigneur, il veut nous encourager ce matin à aller plus loin, à vivre plus de choses. Moi, je rêve de cette église qui est une véritable famille. Ou même, ça va très loin ce que je dis, ou même on n'est pas gêné quand on est aidé par son frère, sa sœur. Ça va même jusque-là. Hein. Les gens ne veulent pas de l'aide, c'est leur fierté. Mais quand on est la même famille, tout ça, ça tombe. J'ai besoin de toi en ce moment, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai besoin, je suis en problématique au niveau financier. On doit se parler les uns les autres. Et on doit s'entraider. Le Seigneur veut faire grandir cela. Moi, je rêve d'une agape de 150 personnes. C'est-à-dire, à la fin du culte, quand il y a l'agape, personne ne part. On est tous ensemble. On mange ensemble. On se réjouit ensemble. On apprend à se connaître. Amen. On est appelé à vivre des choses extraordinaires. Je rêve d'une église où chacun, à chaque fois qu'il part, il lui tarde de revenir. Parce que ses frères et sœurs lui manquent. Amen. Et on a besoin d'une véritable transformation, non? Une action puissante du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous donne d'être vigilants aussi chaque fois que nous prenons ce repas. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je l'ai pris de manière machinale, par habitude. C'est tellement puissant ce que tu veux nous rappeler lorsque nous prenons ces symboles. Je vais demander aux frères et sœurs de s'avancer pour préparer le repas, l'équipe de louange aussi. On va chanter ensemble ce magnifique chant qui nous dit « À la croix, je me prosterne ». Que réellement, on puisse le chanter de tout notre cœur, réalisant que oui, c'est réellement un endroit devant lequel on doit se prosterner. Amen. On doit s'agenouiller, on doit vraiment dire « Seigneur, merci pour la croix ». Amen. Que son nom soit béni.